Chers auditeurs et auditrices des médias partenaires du Studio Kalangu, bonsoir et bienvenue au forum du Studio Kalangu de ce soir. Votre émission de débat et de dialogue à travers laquelle nous tentons de trouver des éléments de réponse avec des spécialistes et personnes ressources du domaine sur des questions d'actualité ou de société que vous vous posez au quotidien. 11 ans de signature de la déclaration de la montagne de la table, quel bilan pour le Niger est notre thème de ce soir. La grande famille de la presse nigérienne a célébré le mercredi 30 novembre dernier l'édition 2022 de la Journée nationale de la liberté de la presse, une journée qui commémore la signature de la déclaration de la montagne de la table le 30 novembre 2011 par l'ancien président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou. La première édition de cette journée fut célébrée le 30 novembre 2014 après que le gouvernement ait décidé en conseil des ministres de l'instituer. Selon le communiqué du gouvernement qui l'annonçait, cette décision fait suite aux importantes réformes initiées au Niger dans le secteur des médias et qui se sont traduites par l'adoption d'un cadre législatif favorable à l'exercice de la liberté de la presse au Niger. Dans la première partie de ce forum, nous parlerons d'abord des avancées enregistrées par le Niger dans la promotion de la liberté de la presse, de la signature de cette déclaration de la montagne de la table à ce jour. Et dans la deuxième partie, il sera question des défis qui se posent à la presse nigérienne et des actions nécessaires pour réussir à les relever au profit d'une presse libre, responsable et indépendante au Niger. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Souleymane Bra, secrétaire à la communication de la Maison de la Presse. Souleymane Bra, bonsoir.
Bonsoir Michel.
Et Maïmoune Diadou, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication, SINATIC. Madame l'ASG, bonsoir.
Bonsoir Michel.
Nous avons également invité à ce forum le Conseil supérieur de la communication qui n'a pas répondu présent à notre invitation à la modération du forum de ce soir. Je suis Michel Déchet. La 9e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse au Niger a été célébrée le mercredi 30 novembre 2022 sous le thème « La redevabilité dans la gouvernance, rôle et responsabilité des médias ». Nous l'avons rappelé en introduction, cette journée est célébrée en souvenir de la signature de la déclaration de la montagne de la table le 30 novembre 2011 par l'ancien président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou. Une déclaration qui appelle à abolir les lois sur la diffamation et l'injure publique en Afrique et à replacer la liberté de la presse au cœur des discussions. Cette déclaration a vu le jour à l'initiative de l'Association mondiale des journaux et le World Editors Forum réunis lors du 60e Congrès mondial des journaux et de la 14e conférence du World Editors Forum au Cap en Afrique du Sud du 3 au 6 juin 2007. Souleymane Bra, secrétaire à la communication du conseil d'administration de la Maison de la Presse, que représente aujourd'hui cette déclaration de la montagne de la table pour nous, journalistes nigériens, et quels sont les engagements auxquels cette déclaration appelle?
Merci beaucoup, Michel. Je tiens sincèrement à remercier les studios Kalangu pour avoir organisé ces forums au lendemain de la célébration de la 9e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. Comme vous avez effectivement rappelé, cette journée nationale est célébrée depuis 2014 et c'est un acte symbolique parce que le président de la République de l'époque, Issoufou Mahamadou, a signé la déclaration de la montagne de la table. C'est un engagement politique qui engage l'ancien président qu'il a signé. Donc la DTM, aujourd'hui, elle n'engage pas le président actuel. Et c'est pour cela, lors de la journée du 30, le président du conseil d'administration de la maison de la presse dans son discours a appelé le président Bazoum à aussi signer la déclaration de la montagne de la table.
Parce que l'engagement, c'était par rapport à la personnalité de Issoufou Mahamadou. Oui. Ça veut dire que ça n'engage aucunement pas Mohamed Bazoum, qui est l'actuel président de la République.
Oui, et oui, effectivement, puisque c'est lui qui dit qu'il ne peut pas poursuivre un journaliste pour l'amener à prison. Donc, c'est vraiment un engagement
pour des faits de diffamation
ou d'injure, oui, pendant quand même l'exercice
de ces deux mandats.
Donc, ça, c'est vraiment un engagement, comme je l'ai dit, qui a été salué de par le monde. Et c'est pour cette raison qu'on a effectivement souhaité ou demandé à ce qui est aussi l'actuel président de la République, aussi Mohamed Bazoum, signe cette déclaration de la montagne de la table. Mais par rapport au bilan, il faut le dire, la signature de cette déclaration de la montagne de la table est intervenue aussi au lendemain de l'adoption de l'ordonnance 2035 portant régime de la liberté de la presse
de juin
au Niger, 2010. Donc du 4 juin 2010. En 2011 aussi, vous vous souvenez que il y a la charte portant accès à l'information publique et aux documents administratifs qui a été aussi adoptée. S'il faut jeter un regard rétrospectif pendant cette décennie pour parler de l'environnement juridique et réglementaire, on peut effectivement dire qu'il y a effectivement des avancées depuis l'ordonnance 2010, en parlant par la DTM. La charte portant accès, en 2018 aussi, il y a la loi sur le Conseil supérieur de la communication qui a été aussi modifiée, et bien d'autres textes aussi réglementaires qui encadrent l'exercice de la profession du journalisme au Niger. Mais ça, c'est du point de vue texte.
Merci beaucoup. Maïmoun Gado, secrétaire général du Synatic, quelle lecture faites-vous de cette célébration de la Journée nationale de la liberté de la presse?
Merci, merci également donc au studio Kalangou. La journée mérite d'être célébrée parce que c'est quand même un acquis pour les journalistes. Ça veut dire que chacun de nous a un rôle à jouer par rapport à la signature de la table de la montagne. Il y a des paramètres qui concernent également les gouvernants. Il y a des choses qu'on doit faire pour l'améliorer. Il y a de l'autre côté également le pouvoir public qui doit faire en sorte que leur contribution vienne en même temps que notre contribution. C'est-à-dire qu'il n'est pas dit que on célèbre cette célébration, c'est juste pour les journalistes. Non, je me dis que ce n'est pas seulement les journalistes qui doivent célébrer cette journée. Cette journée, elle est capitale. Elle est importante pour tout le pays. Elle est importante pour tous les décideurs. Elle est importante à tous les niveaux. Donc, c'est pour ça que je suis en train de dire, quand on célèbre, on ne célèbre pas la journée de la presse en tant que telle pour les journalistes. On célèbre quelque chose qui a un acquis. C'est un acquis qui a été obtenu après plusieurs luttes à travers nos comportements, à travers notre implication, à travers tout ce qu'on avait reproché, en tout cas à ces décideurs-là, à ces pouvoirs publics. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je viens de le dire à l'instant, on fait un bilan. Le bilan de l'année passée écoulée. On a besoin de savoir qu'est-ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui marche? Est-ce que la liberté de la presse marche actuellement ici au pays? Quand on parle de cette liberté, il y a, comme l'a dit Souleymane, des journalistes qui pensent que avec les énormes, avec les ordonnances qui sont signées, avec les ordonnances et la table de la montagne, ils peuvent se permettre de faire beaucoup de choses. Alors que quand on parle de liberté de la presse, moi je vois plutôt la liberté de la presse sous un autre angle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de la liberté de la presse sans tenir compte économiquement de la situation des médias et des journalistes qui exercent.
Il y a donc beaucoup de défis.
Il y a beaucoup de défis.
Mais 11 ans après cette signature de la déclaration de la montagne de la table, selon vous, quels sont les progrès enregistrés par le Niger dans le cadre de la liberté de la presse?
Bon, il faut pas se jeter tout de suite pour dire qu'il y a eu d'énormes avancées. Il y a eu d'énormes avancées sur le plan de décret, sur le plan technique, sur le plan des instruments qui ont été pris pour pouvoir mettre à l'abri les journalistes. Ça, nous sommes d'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tous ces textes qui régissent la liberté de la presse sont, entre autres, applicables ici au Niger? Ça veut dire que s'il n'y a pas l'applicabilité de ces textes, de ces instruments juridiques, on ne peut pas parler d'avancée significative dans la liberté de la presse. C'est totalement passé à côté.
L'applicabilité, c'est à quel niveau, par exemple?
Mais aujourd'hui, ils sont combien les journalistes qui ont été, en tout cas, privés de cette liberté? Ils sont nombreux. Il y a combien de journalistes qui ont été intimidés dans l'exercice de leurs fonctions? Il y a combien de journalistes qui ont séjourné dans les prisons du Niamey? Ils sont nombreux quand même.
Souleymane Bra, quand on parle de cette liberté de la presse au Niger, vous, qu'est-ce que vous en dites niveau de la maison de la presse?
C'est comme ce que je l'ai dit. En fait, du point de vue des textes, effectivement, il y a des avancées. Mais dans la pratique, il y a d'énormes entraves. Vous voyez l'article 67 de l'ordonnance 2010 qui parle de la détention préventive où on dit que la détention préventive est interdite. Les juges ne peuvent décerner ni un mandat d'arrêt ni un mandat de dépôt. Mais qu'est-ce qu'on constate dans la pratique? C'est que généralement, on essaie même de contourner, même pas cet article 67 de l'ordonnance, mais on essaie même de contourner l'ordonnance elle-même pour aller vers les pénalités. Il y a un texte spécifique qui doit être appliqué aux journalistes, mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que généralement, on essaie de contourner ces textes pour aller appliquer autre chose aux journalistes. Vous savez, ça c'est...
C'était par exemple le cas de la loi sur la cybercriminalité qui a été révisée.
En fait, bien avant même...
Donc, conformé avec cette loi.
En fait, les textes de référence, on dit c'est l'ordonnance de 2035 qui a dépénalisé ces délits. La loi portant répression de la cybercriminalité, c'est en 2019.
Oui.
Donc, il y a au moins une décennie entre l'ordonnance et cette nouvelle loi.
Bien sûr.
Donc,
bien
mais
sûr.
Avant d'arriver à cette loi portant répression sur la cybercriminalité, c'est qu'il y a plusieurs fois où on a contourné même l'ordonnance de 2035. Et ça, on l'a dénoncé. Maintenant, effectivement, avec la loi portant répression de la cybercriminalité, ça a été aussi un souci pour les journalistes. Parce que cette nouvelle loi, en 100 ans, on l'a quand même dénoncé que c'est une loi liberticide où effectivement elle ne garantit pas le plein exercice de la liberté de la presse au Niger. Et nous, plusieurs de nos confrères ont été victimes effectivement de cette loi. C'est vrai, la dernière fois ou tout récemment, il faut le dire, elle a été modifiée pour être en harmonie avec l'ordonnance 2035 où les articles 29-30 ont été effectivement modifiés en parlant de l'injure et de la diffamation. Mais de l'autre côté aussi, ce qu'il faut souligner, Michel, c'est que quand vous lisez les dispositions de ces deux articles, dans l'ancienne loi avant qu'elle ne soit modifiée, par exemple, l'amende pour l'injure, c'est de 1 à 5 millions. On tient au niveau de la nouvelle loi, on dit non, on ne peut pas vous amener en prison, mais cette fois-ci, c'est de 5 à 10 millions. Mais dis-moi, les journalistes aujourd'hui, ou l'organe de presse, qui a les moyens de payer une amende de 5 à 10 millions. Mais ça, c'est aussi une autre prison, il faut aussi le dire. Mm-hmm. Parce que on peut vous amender, mais si vous n'avez pas les moyens de payer, on peut aussi vous amener en prison. Ça aussi, ça ne garantit pas vraiment le plein exercice de la liberté de la presse au Niger. L'autre entrave aussi, on a parlé de la charte portant accès à l'information publique et aux documents administratifs. Aujourd'hui, il y a des notes circulaires qui violent allègrement cette charte. Il y a des ministères aujourd'hui qui ont sorti des circulaires où, pour avoir accès à l'information, il faut qu'il y ait l'autorisation du premier responsable du ministre. Alors qu'on a une charte qui autorise même pas les journalistes.
Qui donne accès à l'information.
Qui donne accès à l'information aux citoyens, aux chercheurs et aux journalistes. C'est-à-dire que l'application des textes cause quand même problème. Et comme je l'ai dit, effectivement, on a les textes, mais au niveau de l'application de ces textes, on rencontre beaucoup de difficultés parce qu'effectivement, il y a ceux qui sont sensibles, il y a ceux qui n'aiment pas à ce qu'il y ait la promotion de la liberté de la presse au Niger. Et ça, c'est vraiment dommage parce que la presse a toujours joué sa partition. La jeunesse a toujours joué son rôle. Vous prenez les combats démocratiques qui ont été menés au Niger, quand même, la presse a joué un rôle important et elle continue à quand même jouer son rôle ou, disons, sa partition dans ce combat. Donc, si il y a des textes, moi je me dis que nous sommes dans une république, nous sommes dans un état de droit, il faut que les uns et les autres respectent ces textes. Nous ne faisons pas ce travail pour nous-mêmes, c'est un travail d'utilité publique. Nous faisons du service public. C'est parce que le public a droit à cette information que nous cherchons l'information pour la mettre à la disposition de ces publics. Et c'est pour cela que la dernière édition, la 9e édition, on a parlé de la rédhibilité de la gouvernance. Parce que dans tout ce qui se passe, les citoyens attendent de la presse. Aujourd'hui, s'il y a une information, on dit qu'on attend, c'est les médias, c'est la presse qui a dit. Dans ça, il faut effectivement revenir pour parler, poser les débats, voir qu'est-ce que effectivement les médias sont en train de faire, qu'est-ce qu'on a comme difficulté, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Parce que effectivement, il y a des gens qui n'aiment pas assez que effectivement que tout marche au niveau des médias, que tout marche, parce que si la presse elle est libre, comme on le dit, si elle a tout, mais elle va effectivement jouer pleinement ce rôle du quatrième pouvoir. La liberté de la presse, comme on le dit, elle ne verra pas effectivement, parce que quelqu'un qui travaille, qui n'a pas de salaire, ou les entreprises de presse attendent toujours l'application du décret portant accès à la publicité de l'État et de ses démembrements. Là, je vous dis que c'est vraiment un autre souci. L'accompagnement aussi au niveau de l'État, quand on regarde, comparaison n'est pas raison, les fonds d'aide à la presse, au niveau, quand on regarde notre pays, l'enveloppe ici ou ailleurs, c'est complètement différent. Il y a des pays où on donne jusqu'à hauteur de 1 milliard parce qu'il faut véritablement faire en sorte qu'il y ait des vraies entreprises de presse. Mais nous, chez nous, quand on fait la répartition, 1 million, 2 millions pour un organe, par exemple, une presse écrite, on te donne 1 ou 2 millions, la télé, 8, 9 ou 10 millions. Et aujourd'hui, la difficulté avec la loi modifiée sur le CSC, là où les fonds d'aide sont indirects, c'est du matériel qu'on achète aux organes. Et ça aussi, on a vu aussi les limites de ça. Donc, c'est dire que ça soit au niveau des médias.
Ça veut dire que vous pensez que cette réforme n'avantage pas les médias?
En partie, parce que de l'autre côté, effectivement, il y a la formation et les en tout cas les formations, parce que là il y a la formation continue et les ateliers thématiques. Mais en tout cas, en ce qui concerne les matériels, nous pensons que les médias ont beaucoup plus d'autres besoins que ces matériels, puisque chaque année vous ne pouvez pas seulement acheter que des matériels. Donc c'est dire que vraiment il faut aussi essayer de revoir si on veut améliorer vraiment les conditions de vie des journalistes. Il faut permettre qu'il y ait vraiment l'accès à la publicité de l'État et de ses démembrements, que les journalistes, au-delà des formations, au-delà de tout, que les journalistes arrivent vraiment à vivre dignement, s'il faut le dire, parce que c'est ça aussi la difficulté.
Merci beaucoup, Souleymane. Nous entamons à présent la deuxième partie de ce forum ayant pour thème 11 ans de signature de la déclaration de la montagne de la table. Quel bilan pour le Niger? Et c'est justement pour parler de ces défis que vous avez commencé à énumérer, des défis qui se posent à la presse nigérienne et les actions nécessaires pour réussir à relever tous ces défis au profit d'une presse libre, responsable et indépendante au Niger. Il faut rappeler que le droit à l'information est prévu dans l'article 31 de la Constitution de la 7e République qui dispose que toute personne a le droit d'être informée et d'accéder à l'information détenue par les services publics dans les conditions déterminées par la loi. Maïmoun Diado, secrétaire général du Synatic, quelle est l'importance donc de ce travail que nous faisons en tant que journalistes?
L'importance, vous l'avez dit, c'est d'abord informer l'opinion nationale. Mais comment informer l'opinion nationale quand il y a la réticence de l'information à tous les niveaux? C'est ça aussi l'inquiétude. Le journaliste, le travail qu'un homme de médias est censé faire, c'est aller à la recherche de l'information. Et mais quelle information? C'est une information de qualité. Et pour écrire, ne serait-ce que la presse écrite, ou bien produire quelque chose au niveau de l'audiovisuel, je pense que s'il y a cette réticence de l'information, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a des contenus, en tout cas de très bons contenus qui sont en train d'être...
Mais qu'est-ce qui est à la base de cette rétention de l'information?
Qu'est-ce qui bloque? Ça veut dire qu'il y a des gens, comme l'a dit Suleiman, qui ne veulent pas qu'il y ait une presse libre et indépendante de ce pays. Il y a une loi qui cadre, mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas que l'opinion nationale sache en fait dans quoi ils sont au niveau de leur travail, au niveau de leur ministère, dans leur gouvernance. Le public a besoin de savoir comment la gouvernance fonctionne dans ce pays. Il y a des paramètres, je suis d'accord, mais quand il s'agit d'informer le citoyen sur ce qu'il est en train de collecter, sur ce qu'il est en train d'amener comme, en tout cas, un plus au développement de ce pays, il est censé que l'information doit être, les hommes de médias doivent avoir cette information. Mais, c'est là où le problème se pose, quand je dis mais, c'est que, quand vous regardez, il y a des journaux qui font le sensationnel. C'est parce que, tout simplement, aujourd'hui, en cherchant l'information, il n'y a pas l'information. Quelqu'un peut tout simplement te filer quelque chose pour que tu puisses mettre dans ton journal ou bien pour que tu puisses faire de ça un reportage. Et c'est le souci. Ça, c'est un souci. C'est un souci parce que si le journaliste a l'accès à l'information directe, je ne vois pas comment est-ce que quelqu'un peut influencer ce journaliste pour pouvoir produire quelque chose qui est peut-être du faux. C'est très important.
Donc, à qui profite la liberté de la presse en réalité lorsqu'elle est effective dans un pays?
Quand c'est effectif dans un pays, mais ça profite et pour les journalistes, et ça profite, comme je l'ai dit, au pouvoir public. Et ça profite aux citoyens. Parce que dans ce cas, c'est une presse qui fait bien son travail et qui amène l'information. Et celui qui l'écoute, comme le citoyen, s'est déjà informé sur tout ce qui se passe dans ce pays. C'est ça aussi. Donc, ça intéresse tout le monde à ce niveau. On ne parle pas de liberté de la presse. On ne parle pas d'une presse de qualité sans réunir tout ce qu'il faut réunir autour de ces médias-là. Les journalistes qui font le travail dans ces médias-là, si le média, en quelque sorte, n'est pas dans les bonnes conditions, d'avoir les conditions, en tout cas, de mettre les journalistes dans les bonnes conditions de travail, je vous assure que ce média ne pourrait pas fonctionner comme on le veut. Et les hommes de médias ne peuvent pas aussi suivre la ligne éditoriale. Beaucoup de médias aujourd'hui ont laissé la ligne éditoriale de côté pour pouvoir survivre. Il y a ces organismes-là qui, peut-être avec un peu de financement, peuvent aider l'organe à aller dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, est-ce que ces partenaires-là, du point de vue accompagnement, accompagnent ces médias-là avec un fonds ou bien un matériel? Ils sont moyens. Ça veut dire qu'il n'y a pas un accompagnement même de l'État pour ces organes, pour que ces organes puissent également revoir la copie de ces journalistes qu'ils emploient dans leurs médias. Tout récemment, je ne sais pas, ça fait longtemps, en tout cas, je n'ai pas vu. Ne serait-ce qu'une ambassade ou une organisation internationale faire, ne serait-ce que des dons de matériel à ces médias privés. Ça fait longtemps, moi, je n'ai pas vu ça.
Vous pensez que les médias privés ne sont pas suffisamment appuyés,
c'est ça? Les médias privés ne sont pas suffisamment appuyés. Comme l'a dit Suleiman, aujourd'hui, l'enveloppe 200 millions, là, partagez 200 millions avec combien de médias? Même si vous êtes jusqu'à hauteur de 5 médias, et vous dépassez 5 médias. Quand on prend, par exemple, la presse privée audiovisuelle, c'est au nombre de 10, n'est-ce pas? La presse écrite, aujourd'hui, ils sont nombreux. C'est ça? Aujourd'hui, quand on veut partager le fonds d'aide à la presse et qu'on donne le fonds d'aide à la presse et qu'aujourd'hui, c'est le CSC qui doit veiller à ce que le fonds d'aide à la presse là ne soit pas touché directement mais indirectement, hein, en achetant le matériel, moi, je me dis que si chaque année, un média qui postule et qui a environ 12 millions, si chaque année, ce média doit acheter du matériel qui équivaut à cette enveloppe, par exemple, de 10 millions ou de 11 millions, moi, je me dis que c'est déjà quelque chose qu'il faut revoir. Les besoins sont énormes. Le matériel, je ne disconviens pas, le matériel, c'est nécessaire. Mais donner la possibilité à ces organes-là, quand vous faites au moins cette année, vous avez pris le temps d'acheter les besoins que vous voulez, l'année prochaine, mais regardez ce que vous pouvez, en termes d'accompagnement pour ce média-là, lui donner cette occasion de vous dire ses problèmes et de gérer ces problèmes-là. Même si c'est à vous de les gérer et non que ça passe directement dans la main d'un promoteur, je suis d'accord. Mais il faut essayer de voir les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Le gros problème, si on doit surveiller aujourd'hui la presse privée dans son ensemble, mais il faut également faire quelque chose d'égalité entre la presse publique et la presse privée. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui que la redevance de la Nigelec, là, ça ne profite qu'à la presse publique. Mais pourquoi pas la presse privée en tant que telle? Si la presse privée, un média audiovisuel, doit payer à la Nigelec chaque fin du mois quelque chose de 2 millions ou 3 millions en termes d'électricité, mais quand vous faites le calcul, les 2 millions que cette presse va verser au niveau de la Nigelec, la redevance TVA, là, ça va aller où? À l'ORTN, RTN autant pour moi. Mais dans ce cas, pourquoi? Parce que nous faisons, la presse privée fait le même travail que la presse publique. Mmh. Donc ici, je pense qu'il faut revoir la copie à ce niveau. Et c'est une lutte que Artin doit faire autour de ça. Parce que non seulement la presse audiovisuelle arrive à avoir la redevance de la Nigelec, ça pourrait arranger beaucoup de choses dans ces médias-là.
Ça veut dire votre souhait, c'est que la presse privée puisse également bénéficier de la redevance OLTN. Ça a été un peu débattu lors de la signature de la convention collective que la presse est en train d'expérimenter.
Oui,
quels sont les éléments d'information qu'il y a lieu de faire connaître à ce niveau, Souleymane, par rapport à cet aspect redevance de la Nigelec versée à OLTN, actuellement RTN.
RTN. En tout cas, ça fait partie de nos propositions parce que il faut le dire, depuis l'avènement de la pandémie à COVID-19, vous avez vu comment les médias nigériens, notamment la presse privée, s'est retrouvée. Beaucoup de journalistes s'étaient retrouvés en chômage technique puisque ces médias n'ont pas les moyens de supporter. Et en tout cas, c'est charge. Et dans puisqu'on a fait un document pour demander au gouvernement d'accompagner effectivement les médias, on a demandé la question où on a posé les débats sur la question de la redevance OLTN. En dehors de ça, on a aussi demandé qu'il y ait un plan d'investissement pour les médias, un fonds d'investissement, j'allais dire, pour les médias, permettre à ces médias qu'ils aient accès à ces fonds. De l'autre côté, c'est effectivement de régler, Michel, cette question de l'accès à la publicité de l'État et de ses démembrements. Si aujourd'hui, une télévision a accès à une publicité, on a plusieurs ministères, on a plusieurs institutions de la République, on a plusieurs sociétés d'État. On a vraiment beaucoup de choses. Et au niveau de chaque service, il y a quand même un fonds ou une ligne pour la communication. Donc si vraiment on pouvait respecter vraiment ces décrets pour c'est l'accès à la publicité de l'État de Sémenou, parce que, en fait, qu'est-ce que le décret dit? Il dit 45% du budget et doit être attribué à la presse privée, 45% à la presse publique et 10% aux médias communautaires, c'est-à-dire aux radios communautaires. Vous imaginez aujourd'hui les grosses sociétés qu'on a d'État. Si chacune des sociétés dégage ses budgets et l'utilise avec l'ensemble de ses médias, ça pouvait aussi aider. Rien que l'accès à la publicité peut aider quand même les organes de presse. De l'autre côté,
tout ça, c'est pas fait jusque-là.
C'est pas fait. C'est un décret qui est là, je crois, depuis 2019, 3 ans après. Mm-hmm. Donc, il n'arrive pas à être appliqué. Maintenant, l'autre souci, c'est vraiment, nous, on aurait souhaité qu'il y ait ces fonds d'investissement pour les médias, comme les autres entreprises et les autres sociétés, que ces médias, puisqu'il faut avoir des garanties. Donc, si l'État essaye de voir à ce niveau comment il faut essayer de donner des garanties, ça pouvait aider, parce que le souci, c'est qu'on ait des véritables ou des vraies entreprises de presse qui sont viables. Aujourd'hui, malheureusement, il faut regarder au niveau de la presse écrite. On a combien de couturiers, on a combien d'hebdo. Hein? Donc, c'est dire que c'est vraiment déplorable au niveau de la presse écrite. La presse écrite aujourd'hui, même la relève, cause problème parce que personne n'a envie. Personne n'a envie. Même au niveau de l'institut de formation qui est devenu aujourd'hui ESCOM, il n'y a même pas cette filière au niveau de la presse écrite parce que les gens...
La filière existe, mais on dit qu'il y a peu d'étudiants qui s'intéressent.
Mais c'est ça le problème. Oui, parce que depuis pratiquement 7 ans ou 8 ans, mais les jeunes ne viennent pas s'inscrire au niveau de la presse écrite. Parce que la suite, c'est quoi? Les télés aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui avec les réseaux sociaux, parce que la télévision, c'est aussi des productions, la radio. Mais si vous ne faites pas quelque chose, parce que vous n'avez pas les moyens de faire des productions, de payer convenablement vos personnels pour aller faire des productions, mais les gens vont se réveiller sur les réseaux sociaux et peut-être s'abonner aussi à des bouquets pour peut-être mettre de côté en fait nos chaînes nationales. Donc c'est dire que vraiment la situation elle est compliquée, elle est
peu, que l'État a intérêt.
Elle est peu reluisante. L'État, nous et même le promoteur, on est tous responsables puisque c'est notre profession, c'est de ça que nous vivons. Si ça va, c'est pour tout le monde aussi, mais l'État aussi doit comprendre qu'effectivement nous faisons du service public et au nom de ce service public, on doit tout faire pour arranger la situation de la presse nigérienne. Mais les professionnels aussi, on doit aussi prendre conscience de cette situation, mais aussi d'être plus responsable. La responsabilité, puisque comme l'a dit quelqu'un, la limite de la liberté de la presse, c'est aussi la responsabilité.
Ce niveau du côté des journalistes, quels sont les comportements à bannir au sein de la presse nigérienne dans son ensemble pour qu'elle puisse arriver à jouer pleinement son rôle?
Notre profession, comme certaines professions, on a une charte. Les journalistes professionnels ont quand même une charte et un code. Tout récemment, il a été revu par la Maison de la presse parce qu'il date de 1997. On a pris en compte un certain nombre de défis pour intégrer au niveau de ce document, notamment la question de l'image de la femme dans les médias, la question de la sécurité et même la question de la carte de presse. Dans ces documents, il est clairement défini les droits et devoirs des journalistes. Mais Michel, par exemple, on a parlé de la situation économique. Quelqu'un qui n'a pas un salaire à la fin du mois, qui a une famille, qui doit sortir, qui doit vivre comme tout le monde. La tentation. Il faut le dire, Maimouna.
Les jeunes ne sont pas dans les conditions.
Les jeunes ne sont pas dans les conditions pour ne pas accepter les tentations.
Est-ce qu'on peut espérer une amélioration de cette situation de la liberté de la presse au Niger avec le programme de la Renaissance Acte 3?
On peut espérer si la Renaissance Acte 3 est conscient qu'ils veulent vraiment une presse de qualité, une presse qui va les accompagner, une presse libre et indépendante. Le grand défi, c'est qu'il faut d'abord arranger ces paramètres. Il revient au président de la République de créer certaines conditions pour que la presse nigérienne ne soit plus vue comme une presse misérable. Privée, je dis bien. Et pourquoi le média ne peut pas prendre aujourd'hui des professionnels? C'est parce que ce média ne peut pas payer ses professionnels. Et c'est là le grand danger. Il faut, dans ce cas, très rapidement, que le Conseil supérieur de la communication fasse en sorte que la loi sur la publicité là soit revue rapidement et mettre à la disposition de ces hommes et de ces médias pour qu'il y ait une bonne amélioration des conditions de vie et de travail de ces journalistes. Un journaliste qui sort de chez lui et qui n'a rien laissé Michel à la maison, je suis sûr que si quelqu'un lui offre quelque chose, même si ce n'est pas de qualité, il va prendre ça et il fera ça de son information. Et c'est là le danger aussi. Et quand je dis aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre, mais ils sont en train de travailler pour survivre. C'est différent de travailler pour vivre dignement. Là, c'est la survie qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont pas en train de faire le métier en tant que tel. Le métier d'un journaliste, ils le font quand ils sont à la rédaction. Mais dehors, ils sont aussi la proie de ces politiciens, la proie de ces hommes véreux qui se cachent derrière cette politique-là pour pouvoir les faire travailler. C'est ça le grand danger. Et c'est là où le bas blesse. Ce que je suis en train de dire, pour mettre fin à tout ça là, c'est à l'État de réglementer certaines choses, de mettre les conditions, ces journalistes et ces organes de presse dans les conditions les plus absolues. De la même manière que l'État est en train de veiller aujourd'hui que les médias publics fassent leur travail correctement, et qui sont aujourd'hui employés correctement, ils sont payés correctement, ils font leur travail de journaliste correctement, mais laisser la possibilité à ces organes de presse privés aussi de faire leur travail correctement, en employant les moyens, en leur donnant les moyens, le faut au lieu même de voir ce fonds d'aide à la presse là, il faut créer une situation pour d'abord améliorer les conditions de ces journalistes qui animent ces organes. C'est ça, en fait, le gros problème. Le président de la République, il peut le faire. Il l'a fait pour beaucoup de gens. Il l'a fait pour beaucoup, aujourd'hui, de travailleurs. Mais la corporation, aujourd'hui, dans un pays, si le métier de journaliste est en danger, ça veut dire que nous sommes tous en danger.
Et c'est le cas, vous pensez?
Mais oui.
Merci
parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas la différence entre un journaliste qui se dit journaliste sur les réseaux sociaux et un journaliste qui est dans une rédaction. C'est merci totalement beaucoup. Différent. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des consommateurs des informations sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes plus attirés. Nous ne sommes plus attirés, Michel, par ce que nos télévisions, ce que nos radios sont en train de produire, parce que nos télés et nos radios ne produisent pas quelque chose.
Les gens vont d'ailleurs sur le bouquet pour pouvoir avoir des choses.
Voilà, donc ça veut dire que ça là, c'est un défi que, en tout cas, les gouvernants, en tout cas le président de la République, à travers son ministère, le ministère de la communication, doit travailler, en tout cas, pour mettre ces médias-là, ces journalistes-là, ils le méritent, ils font leur travail, il y a ceux qui travaillent et ceux qui ne font pas, en tout cas, le travail quotidien, mais je sais qu'ils sont nombreux, ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent qu'on harmonise le cadre de journalistes ici au Niger. Donc, c'est de mémoire à ces journalistes qui se sont battus, qui ont fait de cette presse nigérienne, en tout cas depuis nombreuses années, quelque chose qu'on peut miroiter. Jusque dans les années 90, il y a eu quand même des journalistes qui ont travaillé pour ce pays. Donc, en mémoire, non seulement pour ces journalistes-là, le gouvernement doit faire quelque chose pour tout simplement que le métier de journaliste que nous sommes en train d'exercer, que nous revenons pour être le quatrième pouvoir. que nous méritons la place
pour
du quatrième pouvoir.
Pour que la presse nigérienne puisse jouer véritablement le rôle qui est le sien.
Voilà.
Merci beaucoup.
Voilà.
Il faut rappeler qu'avec, en tout cas, la signature de la montagne de la table, le Niger avait réussi à gagner plus de crédibilité en termes de liberté de presse. Il est, par exemple, arrivé 29e sur 173 pays classés par Reporters sans frontières en 2011, alors qu'il était 104e dans le classement annuel de 2010. La courbe de ce classement a évolué en dents de scie. Nous avons par exemple des rangs de 61e en 2017, 63e en 2018 et 59e en 2022. Souleymane Bra, secrétaire à la communication de la Maison de la Presse, pour terminer aujourd'hui, est-ce que vous avez d'autres attentes particulières en dehors de ce que Maïmoune Diado a eu à évoquer comme inquiétude par rapport même aux conditions de vie et de travail des journalistes de façon générale?
Oui, au niveau de la corporation, c'est vraiment d'attirer et d'appeler les confrères à la confraternité. Vous savez, c'est un principe cher à notre profession. Aujourd'hui, il faut le dire, il y a vraiment un malaise au niveau du respect de la confraternité.
Là, c'est il faut le respecter. Les journalistes doivent être solidaires.
Cette unité entre nous.
Mm-hmm. Ça,
c'est vraiment démaîtriser aussi. Et les textes, c'est très important.
Mm-hmm.
Nous, on renforce leur capacité, mais il faut aussi maîtriser les textes. De l'autre côté, c'est effectivement de continuer à mener le combat, puisque les droits ne se donnent pas, ils s'arrachent, pour effectivement qu'il y ait cette amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Puisque si nous sommes unis, nous serons forts, et le combat sera plus efficace.
Mm-hmm.
Donc moi, je pense que c'est ça qu'il faut. Tout à l'heure aussi, Mémouna a parlé des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux doivent aussi être une opportunité pour nous, professionnels des médias, d'être sur ces réseaux sociaux, donner la bonne information. Mais toujours est-il que nous devons continuer à faire le combat pour effectivement que l'accès à l'information soit quand même effectif au niveau de nos administrations, au niveau des services publics, parce que cet accès cause toujours pour l'homme. Et ça, je pense qu'il faut continuer les combats pour qu'il y ait cet accès à l'information, parce que le public attend l'information de notre part, et nous, si nous n'avons pas accès à cette information, on ne peut pas quand même la donner. Donc c'est très important, c'est très important. Maintenant, la dernière chose, c'est par rapport à cette loi révisée portant répression de la cybercriminalité. Il faut que les journalistes la maîtrisent, parce que elle a été réviser les contenus, les dispositions de cette loi, comme les autres textes, doivent aussi être maîtrisés, à mon avis, par les professionnels des médias.
Il faut donc une vulgarisation des textes. Les attentes sont donc immenses et multiples. Merci beaucoup. Et fidèles auditeurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangu qui a eu pour thème 11 ans de signature de la déclaration de la montagne de la table. Quel bilan pour le Niger ? Nous retenons que les défis sont immenses, selon en tout cas nos deux invités. Le droit à l'information est en effet prévu dans l'article 31 de la Constitution de la 7e République qui dispose que toute personne a le droit d'être informée et d'accéder à l'information détenue par les services publics dans les conditions déterminées par la loi. C'est donc de l'intérêt de tout le pays que les journalistes soient dans les conditions qui leur permettent de faire leur travail en toute responsabilité, dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Merci donc à nos invités. C'était Souleymane Bra, secrétaire à la communication de la Maison de la Presse, Maïmoune Diado, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication, SINATIC. Nous avons également invité à ce forum le Conseil supérieur de la communication qui n'a pas répondu présent à notre invitation. Au micro, c'était Michel Deji pour la modération de ce forum. À la technique, Amina Hassan. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous et au revoir.